Merci au groupe de louanges et merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Quelqu'un me disait récemment que c'est important de faire des piqûres de rappel sur des sujets importants et je crois que c'est vrai. On est tellement imprégné dans ce monde qu'on a besoin d'entendre, de réentendre, de ré-réentendre parce que ça permet de revenir parfois des situations dans nos vies. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, il y a quand même des sujets qui sont très importants, si on veut que ça change dans nos vies. On a besoin de pardon, on a besoin d'amour, on a besoin de bienveillance, mais pas seulement de recevoir, mais de donner. Donner le pardon, donner de l'amour, donner de la bienveillance. Et puis, le thème de la croix, 1 Corinthiens 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il y a encore bien d'autres sujets, mais vraiment ce sujet-là, même si ce n'est pas celui de ma prédication ce matin, c'est le sujet central, la croix. Parce que sans la croix, il ne se passe rien. Sans la croix, pas de salut. Sans la croix, on est mort. Mais bon, je vous ai dit, ce n'est pas le sujet de ma prédication. Alors avant d'entamer le thème de ce matin, je voudrais lire quelques versets. Matthieu 4, 17, Jésus commence son ministère et dit « Repentez-vous ». La repentance nous amène à la confession. Et on a besoin de repentance dans nos vies. La repentance, ce n'est pas une fois dans notre vie, à un moment donné où on se repent. Mais je crois que ça doit être un mode de vie, parce que nous savons que nous péchons tous les jours. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire « je n'ai pas péché aujourd'hui » ou « je n'ai pas péché hier ». Ça peut être parfois intentionnel, parfois ce n'est pas intentionnel, mais en tout cas on est pécheur. Et ça c'est la réalité de nos vies, mais gloire à Dieu, puisque en Jésus-Christ, nous sommes libérés. Jacques 5, 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La confession publique nous donne la guérison. Parfois, on essaye des choses, on voudrait faire comme ci, comme ça. Et la parole de Dieu est très claire dans des domaines, c'est simple. Alors, évidemment, je ne dis pas que ça arrive tout le temps. Ce n'est pas parce que vous faites une confession publique que du coup vous allez être guéri. Mais c'est une réalité de la part de Dieu. Parfois, il y a des péchés dans nos vies qui nous collent à la peau jusqu'au moment où on le confesse à quelqu'un d'autre. Parce qu'on fait cette démarche de le confesser en public. Alors quand je dis en public, ça ne veut pas dire devant toute l'Église. Ça peut être, ça arrive parfois, mais le fait de le confesser à quelqu'un, à une ou deux personnes, c'est une confession publique et ça, ça nous guérit. Acte 3, 19, après avoir guéri le boiteux à la porte du temple, Pierre se retrouve au milieu de personnes et puis il leur dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Là encore. Parfois, on se dit « Mais Dieu est Dieu, Dieu est grand, et Dieu, il me pardonne. » Et la Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Et ne croyons pas que notre manière de penser est juste. Ce qui est juste, c'est la parole de Dieu. Et nos vies peuvent être justes si nous vivons la parole de Dieu. Si nous acceptons ce que la parole de Dieu nous dit. Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » Là, c'est encore une autre dimension. Ce n'est pas juste « je confesse », mais « j'abandonne ». Alors, la repentance, selon le dictionnaire, c'est un regret douloureux de ses erreurs. Et vous me direz peut-être, mais de quelles erreurs? Il y a bien des gens qui disent « Ma bonté me perdra. » Et est-ce que c'est une erreur? Jamais vous trouverez ça dans la parole de Dieu, que vous devez arrêter d'être bon parce qu'autrement ça vous perdra. Et vous voyez, on peut être dans des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes de la parole de Dieu. Ce qui est vraiment important, c'est de croire ce que Dieu dit, ce que dit Dieu, et de le faire nôtre. Parce que ça change nos vies. Et Bruno, tout à l'heure, parlait de cette semaine de jeûne et prière. On peut faire des semaines de jeûne et prière. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nos vies ne changeront pas. Mais par contre, le fait de prendre du temps dans le jeûne et la prière, là, du coup, on se rapproche plus près de Dieu, on dit à notre nature, qui est pécheresse, « Tais-toi, je veux entendre ce que Dieu a à me dire. » Et parce que nous avons cette attitude de cœur, alors Dieu révèle des choses, et ce n'est pas tout. S'il nous les révèle et qu'on n'acte pas, il ne se passera encore rien. Donc, c'est bien, on fait parfois des choses, mais ça n'aboutit pas. Dieu révèle, on obéit, et il se passe des choses. Et j'ai un petit témoignage, un jour, un frère, un dimanche matin, on discutait ici, et puis, à un moment donné, je lui dis, bah, écoute, je pense qu'il faut que tu fasses ça, ça, et puis, et je le vois dans la semaine, et puis il me dit, waouh, c'est super, ce que tu m'as dit, je l'ai fait, et ça fonctionne. Et je lui dis, c'est pas super, ce qui est super, c'est ce que toi, t'as fait. Parce que ce que je t'ai partagé, tu l'as pris, tu l'as entendu, tu l'as mis en pratique et tu as vu le résultat. Et souvent dans nos vies, on voudrait que les choses changent, mais on ne veut pas obéir. Je vous garantis, obéissez à Dieu, mettez en pratique et vous verrez les choses changer dans votre vie. C'est sûr. C'est sûr. Et vous verrez que vous gagnerez du temps. Ça fait peut-être des semaines, des mois ou des années qu'il y a des choses avec lesquelles vous êtes embêté, mettez en pratique. C'est souvent ça, en fait, qui est le plus difficile. C'est d'obéir, de mettre en pratique. Mais une fois qu'on fait ça, si je vous dis, mettez de la grenadine dans votre eau et vous verrez, elle sera colorée. Tant que vous ne l'aurez pas fait, ben, il ne se passera rien. Vous pourrez dire, ah oui, il me l'a dit, c'est bien. Mais si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Mettez en pratique les choses et vous verrez. Et puis, il y a aussi ce que nous déclarons comme étant une erreur et ce que Dieu déclare comme étant une erreur. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment chercher que dit Dieu par rapport aux situations. Parce que c'est ce que Dieu dit qui est plus important. À un moment donné dans notre vie, je pense que pour la plupart d'entre nous ici, nous nous sommes rendus compte, et quand je dis ça, en fait, c'est pas nous nous sommes rendus compte, c'est le Saint-Esprit nous a révélé. Et le Saint-Esprit nous a convaincus. Et on trouve ça dans Jean 16, 8, où il est écrit que le Saint-Esprit convaincra le monde de justice, de jugement et de péché. Mais le Saint-Esprit le fait avec nous, il ne fait pas qu'avec le monde. Parce que nous avons encore dans notre vie des restes du monde. Et donc le Saint-Esprit, ne prenez pas cette parole en disant « Mais ça, c'est la parole pour le monde. Ça, c'est la parole pour chacun d'entre nous. » Et puis dans notre marche avec Dieu, je pense qu'on a de plus en plus une compréhension qui est plus aiguisée, qui est différente de celle qu'on avait au départ, parce que la parole de Dieu vient faire son effet dans nos vies. Et donc, on a des réalités. Et là, je vais prendre Nombre 20, le verset 7 et le verset 8. En fait, c'est le peuple d'Israël qui est dans le désert et puis qui râle parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, c'est toujours comique parce que quand on lit l'Ancien Testament, on se dit « Oh, quand même, ce peuple d'Israël !» Mais il faut vraiment à chaque fois remettre ça dans nos vies. C'est peut-être pas parce que on n'a pas d'eau qu'on râle, parce que l'eau, on ouvre le robinet, on en a. Mais il y a plein d'autres situations qu'on n'a pas, et est-ce qu'on ne râle pas devant le Seigneur? Et là, le peuple d'Israël râle. Aaron et Moïse vont dans la tente, ils prient, et puis voilà. Voilà ce que dit Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. » Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Dieu dit, Moïse obéit. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Pour la plupart, vous connaissez hein, ce passage, donc vous voyez certainement où je veux en venir. Donc, puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi, comme il est écrit avant. Dieu dit qu'il va donner de l'eau aux hommes et au bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, » c'est fort quand même. Pourtant, quand on regarde, ils ont obéi à ce que Dieu a dit, en partie en tout cas. Et ce que j'ai souligné dans ma Bible, c'est « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier. » Parce que quand nous faisons quelque chose dans notre vie, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour être bien vis-à-vis des autres, mais c'est pour sanctifier Dieu. Dans Notre Père, il est dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment le nom de Dieu peut-il être sanctifié alors que Dieu est trois fois saint ? C'est pour qu'au travers de ce que nous faisons, le nom de Dieu soit sanctifié. Que nous soyons des témoins de qui est Dieu. De manière à ce que son nom soit sanctifié. Je crois que c'est le but de toute notre vie. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que tout dans notre vie fasse que Dieu soit vu au travers de nous pour que les autres voient ça. C'est vraiment important. Et donc là, quand même, le peuple râle. Moïse, ce n'est pas la première fois. Il retourne à Dieu, il demande à Dieu. Mais à cause de ça, parce que Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui a dit, Dieu a dit, tu parleras au rocher. Et puis, pour ceux qui connaissent, il y a déjà eu une première fois où ça s'est passé comme ça, où Moïse a frappé le rocher, parce que Dieu lui a dit, frappe le rocher. Cette fois-là, Dieu dit, parle au rocher. Et là, Moïse frappe le rocher. Et à cause de ça, il ne peut pas rentrer dans le pays promis. Waouh! Et je crois que parfois nous ne mesurons pas l'importance de ce que Dieu veut faire au travers de nos vies pour les autres. Wow, si je fais ça, c'est pas grave. Peut-être que pour toi, c'est pas grave. Mais quel impact ça a autour de toi? Quand tu es chez toi, tout seul, et que tu hurles sur tes enfants, il n'y a que tes enfants et ton épouse peut-être qui l'entendent. Wow, c'est pas grave. Mais quel impact ça a? Et là, on parle de la famille. Mais quand on est au travail et qu'on hurle parce qu'on n'est pas content ou qu'on a des attitudes qui ne sont pas bonnes, quel impact nous avons? Alors oui, on peut toujours se retrancher derrière. Bon, c'est pas trop grave. Mais ce qui n'est pas grave pour toi est peut-être grave pour Dieu. Et ce n'est pas comme une accusation, mais c'est pour remettre les choses à leur place et se dire, mais ce que je crois, est-ce que c'est ce que Dieu pense? Et à partir de là, du coup, on réaligne nos vies en disant, Seigneur, bon, je te demande pardon. Parce que ça, c'est quand même extraordinaire. Si tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Si tu es tombé 10 fois dans la journée, que tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Nous devons vraiment travailler à ça, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, parce que parfois, oui, mais ça fait déjà 10 fois qu'il me fait le coup, quand même. Et il y a toute cette mesure de, il faut que je continue à pardonner. Alors, c'est vrai que je peux l'exhorter, je peux l'encourager pour que ça change, mais Dieu me demande de pardonner. À la fin du Notre Père, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas. Et j'ai malheureusement parfois ce sentiment que nous chantons des choses dans nos vies. Bon, c'est pas trop grave. La Bible est très claire. Il y a des situations qui sont très claires. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Oui, mais tu ne comprends pas que... Non, arrêtons de discuter avec Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour dire Dieu va nous condamner. Ce que Dieu a prévu, c'est nous libérer. Ce que Dieu a prévu, c'est nous délivrer, c'est de nous guérir. Donc si j'obéis à Dieu et que j'entre dans ce que Dieu me demande, il va se passer des choses dans ma vie. Ça va changer ma vie. Ça va changer mon quotidien. 2 Corinthiens 7, 9 et 10. L'apôtre Paul qui dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » En fait, ce matin, il y a 2 petites choses que je voudrais aborder plus précisément par rapport à la repentance, parce que là, quand même, je pense que vous avez compris que le message central de la prédication, c'est la repentance. En tout cas, j'espère. Si vous n'avez pas compris, je vous le dis. C'est le premier, mais à quoi la repentance nous amène? Et là, ben, dans ce que je viens de lire... Ah non, je me trompe, c'est un autre passage. Dans ce que je vais vous lire, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Donc là, on peut, après ce texte, on peut se poser la question, mais quand je me repens, quand je demande pardon à Dieu pour des situations, est-ce que je les abandonne? Et là, dans ce passage, c'est quand même très clairement écrit que vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc 2 choses, j'abandonne et je change. Je me repens et je change. Pas juste, je me repens. Et je reste dans cet état où ben, je vais me repentir tous les jours parce que cette situation dans ma vie, elle est là. Non, je me repens et merci Seigneur parce qu'il m'a donné son Saint-Esprit qui va m'aider à ce que ça change dans ma vie. Je peux me repentir et je peux changer d'attitude. Quand Jésus commence son ministère, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous », c'est-à-dire changez de mentalité, changez votre manière de faire. Donc la vraie repentance, ce n'est pas seulement cesser de faire le mal, mais il s'agit aussi de faire le bien. Ce n'est pas juste « je me repens, j'abandonne ça et j'abandonne que ça ». C'est « j'abandonne », mais du coup, ça, en fait, ça fait un vide dans ma vie, quelque part. Et tout vide doit être comblé. Et donc, il faut le combler avec ce qui est bien. Donc, j'abandonne, je suis libéré de ça, et je remplis ça par quelque chose qui va faire que maintenant, je vais faire du bien aux autres. En tout cas, c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. C'est pour enlever quelque chose de mauvais dans ma vie et remettre quelque chose de mauvais dans ma vie. Il n'y a vraiment pas d'intérêt, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est que les gens ils vont voir que si vous ne faisiez pas du bien avant, vous ne faites toujours pas du bien, mais dans un autre domaine, je ne vois pas l'intérêt, puisque nous sommes vraiment appelés à être des témoins de qui est Dieu dans nos vies. Et puis, aussi de savoir que la repentance a un but, comme j'ai dit tout à l'heure, de libération, de guérison, de délivrance, de détachement de choses dans nos vies. Ça aussi, c'est une réalité. Quand on passe le cap, quand la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. Donc, quand on demande l'aide de Dieu et qu'il intervient, il se passe des choses. Et Dieu sépare des choses dans nos vies. Mais plus que le fait du péché que l'on peut commettre, et ça c'est la deuxième chose que je voudrais aborder ce matin, c'est que parfois il y a dans nos vies des états de péché. Alors, je m'explique. Nous avons des péchés dans nos vies avec lesquels nous avons plus de difficultés. Et là, vraiment, je vous encourage pour que vous sachiez que c'est normal. On n'a pas tous les mêmes problèmes avec tous les péchés. Donc c'est normal, s'il y a des péchés avec lesquels tu as plus de facilité que d'autres, et d'autres avec lesquels tu as moins ou plus de difficultés que d'autres, c'est normal. Maintenant, ne l'accepte pas comme une fatalité. C'est pas, ben, c'est normal, donc c'est comme ça. Non, c'est normal que parce que j'ai entendu, je sais que c'est normal que j'ai plus de difficultés avec un péché, mais je ne l'accepte pas comme une fatalité et je vais mettre les choses en place dans ma vie pour que ça change. Autrement, je vois vraiment pas l'intérêt. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc, ne l'acceptez pas comme une fatalité et ne vous découragez pas. J'ai discuté il y a quelque temps avec une personne qui me donnait ce témoignage. En fait, dans notre vie chrétienne, ça arrive que l'on pêche et tout de suite le Saint-Esprit vient. Alors, ça ne se voit pas pour tout le monde, mais c'est une aiguille. Et puis ça vient, ça pique, oh, ça nous fait réagir. Ah Seigneur, là ça ne va pas, je te demande pardon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre d'attitude. Vous faites quelque chose, mais très vite vous vous rendez compte, hop, Seigneur, je te demande pardon ou au frère ou à la sœur que j'ai pu blesser. Et puis, il y a des états de péché. Et l'état de péché, ben, c'est un peu comme ça. L'aiguille est là, plantée dans ma main. Selon ce que je bouge, ça peut piquer, mais en général, ça ne pique pas. Ça, c'est parce qu'on est tellement imprégné de quelque chose dans notre vie. Souvent, ce n'est pas toujours, mais souvent, ce sont des héritages qu'on a eu de nos parents, de nos grands-parents. Il y a aussi des choses que nous avons pratiquées dans nos vies qui, on l'a tellement fait dans nos vies, que ça ne nous fait plus réagir. Quand on commet ces péchés, je ne dis pas que ça... Ça ne nous embête pas, mais ça ne nous fait pas trop réagir. Et donc, il y a une personne qui m'a expliqué que dans sa famille, financièrement, il n'avait pas de soucis. Mais il y avait vraiment cette culture de peur de manquer. Eh bien, le fait d'avoir peur de manquer, c'est un péché. Est-ce que vous pensez que c'est un péché? La peur de manquer. Pourquoi c'est un péché? Voilà. En fait, c'est un péché parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Le problème, c'est que quand vous avez vécu pendant des années dans un environnement où on vous a dit, on a sous-entendu, parfois on l'a dit clairement, mais parfois c'est un sous-entendu, c'est une manière de vivre qui fait que, oui, mais on ne va pas faire ça parce qu'on a peur, parce que... Et donc, on est imprégné de ça. Et puis dans notre vie avec le Seigneur, quand on vient au Seigneur, on dit « Ah Seigneur, il faut que je te fasse confiance. » Mais il y a tout cet héritage qui nous plombe. Il ne faut pas se décourager. Dieu a la solution. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je l'ai déjà dit, mais par exemple, un drogué se convertit, il vient au Seigneur, et pour certains, c'est comme ça. Libéré. Plus besoin de drogue, plus... Et il y en a d'autres pour qui ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu est Dieu. Dieu nous enseigne au travers de ce que nous vivons. Et puis, à d'autres drogués, ben, c'est peut-être le temps de gestation, je ne sais pas, où ça va mûrir, où Dieu va transformer le caractère. Et là, il ne faut pas non plus dire, mais Dieu n'est pas juste, parce que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Mais ne me demandez pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Il y a des situations pour lesquelles la même situation pour une personne, c'est instantané, pour une autre, ce n'est pas instantané. Mais là où c'est quand même... formidable, c'est que Dieu nous accompagne dans tout. Que Dieu ne nous abandonne pas, il ne va pas nous laisser dans notre péché. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut nous faire sortir de ça parce qu'il veut, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et donc, il faut faire en sorte que cette aiguille qui nous fait plus mal, à force de combattre ça, à force de revenir auprès de Dieu, parce que c'est auprès de Dieu que l'on reçoit les choses. la confiance, l'amour. Toutes ces choses, c'est auprès de lui. Et ce sera de faire que si ça ne me fait pas mal, à un moment donné, parce qu'on sera tellement allé auprès du Seigneur, que cette partie-là ne sera plus endurcie. Et donc, quand on péchera, ça viendra nous piquer tout de suite. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc, les deux choses, quand on se repent, c'est de changer pour du bien. Et la deuxième, c'est de sortir de ces états qui nous encombrent la vie. Et j'aime bien manger. Et donc, dans la voiture, je disais à mon épouse, tu peux me donner la recette des boulettes de Liège ? Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà mangé les boulettes de Liège, mais c'est très bon. C'est du haché, préparé, on fait des boulettes et puis on les met dans de la sauce. C'est bon, hein, Jacqueline ? Et en fait, si vous faites macérer cette boulette dans ce bon jus, et à un moment donné, vous sortez la boulette, donc ça a duré quelques heures, vous sortez la boulette et vous la mettez sur la cheminée. Je peux vous dire que 3 ou 4 jours plus tard, si vous allez couper la boulette en deux et que vous mangez l'intérieur, elle aura toujours le goût de la sauce. Parce que la boulette sera tellement imprégnée que ça aura encore le goût. Et nos vies, c'est la même chose. Il ne faut pas se leurrer. Si nos vies sont imprégnées de notre passé ou de notre aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, parfois, il y a quand même des situations dans lesquelles nous nous mettons nous-mêmes. Et si on est imprégné de ça, par exemple, on sort avec les copains après le travail et tous les soirs, on va au bistrot et on boit 3-4 bières. Est-ce que vous croyez que c'est ce que Dieu veut ? Moi, je ne pense pas. Alors, est-ce que Dieu ne veut pas que vous buviez de la bière ? Je ne pense pas non plus. Mais dans quel état je peux me retrouver ? Et quel témoignage je vais avoir ? Et donc, ça peut être un état qui, peut-être qu'au début de notre conversion, on n'avait pas. Mais avec le temps, faisant, on s'est dit, moi, je vais évangéliser mes copains. Et ça a commencé comme ça. Et donc, aujourd'hui, peut-être que les copains ne sont toujours pas au Seigneur, mais nous, tous les soirs, on est au bistrot. Et là, c'est un exemple. Mais enfin, je pense que le Saint-Esprit vous rappellera peut-être des situations de vos vies dans lesquelles vous êtes où, Seigneur, vous vous en faire sortir. Que vous ne soyez plus imprégné. Et c'est là où je disais, ça va parfois prendre du temps. Parce qu'il va falloir combattre ça. Mais merci Seigneur, parce qu'il va nous donner la victoire. Jésus les a toutes acquises à la croix. Et en Jésus, nous sommes libres. Et c'est vrai, en le disant, je me rends compte, mais c'est tellement simple. Quand on le dit. Mais c'est tellement parfois difficile quand on doit le vivre. Mais en tout cas, c'est la réalité de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. C'est nous faire sortir de nos situations. Ne voyons pas la repentance comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui nous libère de l'esclavage. La repentance nous fait sortir de l'esclavage dans lequel nous sommes. Romains 6, 16 nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et Jean-Baptiste disait, quand il baptisait les gens, « Produisez du fruit digne de la repentance. » Et si vous êtes d'accord, on va traiter ces deux choses ensemble. Alors là, j'ai fait une petite liste des péchés, mais peut-être que pendant que je vous parlais, le Saint-Esprit vous a dit, tu vois, ça, ce serait peut-être bien de le traiter ce matin. Mais je vais quand même vous en donner plusieurs, et peut-être que vous allez vous retrouver dans l'un ou dans l'autre. Donc, on va le faire en deux phases. La première, c'est par rapport à des péchés que Dieu peut vous montrer et qui sont dans votre vie que Dieu veut que vous abandonniez. Et puis, le deuxième, où c'est plus un état, et vous vous rendez compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est imprégné en vous. Mais Dieu est Dieu, et Dieu est grand. Et le désir de Dieu, c'est de vous libérer. C'est de nous libérer. On a tous besoin encore de la délivrance de Dieu dans nos vies. Et la délivrance de Dieu nous amène à la guérison. Et la guérison de Dieu nous amène à faire de bonnes choses. Donc pour ceux qui veulent confesser un péché et changer par rapport à ce péché, et là ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être le manque de foi, ça peut être croire que l'on sait mieux que Dieu ou que les autres. Le péché de la convoitise, l'orgueil, la culpabilité, l'immoralité, le fait de ne pas vouloir se soumettre aux autorités, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'Église, mais aussi dans le monde séculier. Le fait de pécher envers les autres ou envers soi-même, de ne pas pardonner aux autres ou de ne pas se pardonner soi-même. Parce que là aussi, parfois, l'ennemi vient et nous redit, tu vois, ce que tu as fait là, ça ne va pas. Tu es chrétien, tu le sais et tu l'as fait. Et donc, du coup, on ne se pardonne pas à soi-même. Mais qui sommes-nous pour ne pas nous pardonner alors que Dieu nous pardonne? Parfois le mécontentement, le jugement, et là ce n'est que quelques que nous puissions nous repentir devant Dieu. Dire Seigneur, je te demande pardon pour ce péché bien précisément dans ma vie. Et Seigneur, aide-moi à l'abandonner pleinement. Je ne veux pas juste te demander pardon, mais je veux vivre autre chose. Je veux entrer dans quelque chose de nouveau avec toi. Donc je te demande pardon et je te demande de m'aider parce que je veux changer. Et Seigneur, je prie maintenant que par la puissance de ton esprit, tu descendes dans nos vies, que nous soyons entourés de ton amour, entourés de ton esprit qui vient nous laver, qui vient nous purifier, qui vient ôter de nos vies ce qui est là et qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche d'aller plus près de toi, d'aller plus loin avec toi, de marcher à côté de toi. Parce que nous ne voulons pas juste connaître par l'intelligence, avoir entendu, avoir vu, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Seigneur, merci de pardonner chacun, de nous laver et de nous donner le vouloir et le faire afin que ça change dans nos vies, Seigneur. Et puis aussi pour tous les états de nos vies dans lesquels nous sommes, je pourrais un peu dire, embourbés. Et Seigneur, là, je te demande aussi une grâce particulière. Que ce soit le manque de confiance en toi, que ce soit le fait de regarder les autres avec dédain, ne pas accuser juste nos parents parce que c'est ce qu'ils nous ont transmis, mais pouvoir leur pardonner et pouvoir entrer dans cette délivrance que tu nous donnes. Nous ne voulons plus être attachés par tout ce que l'ennemi veut nous tenir enfermés. Et je prie, Seigneur, pour que tu souffles de ton esprit, que tu viennes libérer ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Christ soit en chacun de nous avec l'abondance, avec cette eau vive, cette eau puissante qui vient nous laver, qui vient nous libérer. Seigneur, même si c'est un état qui dure depuis notre conversion, tu restes Dieu, tu es Dieu. Et parce que nous mettons en place quelque chose, nous déclarons les choses alors nous savons que tu interviens. Et tu viens nous libérer. Tu viens nous délivrer. Et tu viens nous guérir. Seigneur, merci de faire cette œuvre en profondeur dans nos vies. Pas juste quelque chose qui est là superficiellement, mais vraiment en profondeur. Viens traiter dans nos vies ce qui doit être traité afin que nous soyons libérés au nom de Jésus-Christ. Libère ton peuple, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, libérer. Viens libérer, viens ôter. Que chacun puisse se décharger sur toi. Parce que tu dis, prenez mon joug, car il est doux et léger. Et Seigneur, merci de faire cette œuvre en profondeur. Qu'aujourd'hui soit un jour de rédemption. Qu'aujourd'hui soit un jour de libération, un jour de guérison. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais, parce que même dans l'invisible, tu opères des miracles. Tu n'es pas limité. Je prie Saint-Esprit pour que aujourd'hui et durant toute la semaine, tu sois à l'œuvre dans nos vies. Libère-nous Seigneur, libère ton peuple. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, à tes côtés. Nous voulons te suivre. Manifeste ta grâce, Papa, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.